C'est vrai qu'il est partout, à l'aéroport, dans les gares, sur les genoux de monsieur, dans le métro en face de vous. Il est en pile dans les librairies, en plein d'exemplaires, dans les bibliothèques, et puis déplié, corné, raturé sur la table de chevet. On le prend en photo, on en pique des extraits, on en parle au déjeuner dominical comme à la machine à café. Il est partout et c'est un livre, figurez-vous. Un livre blanc cassé avec un bandeau rouge sang à la hauteur de l'événement. Rouge sang, parce qu'on peut le dire. Qu'est-ce qu'il prend ? Mais alors qu'est-ce qu'il prend ? C'est assez fascinant d'ailleurs le procès qui est fait à ce livre, dont on oublie presque toujours en réalité qu'il s'agit d'un livre. C'est simple, on ne parle que de l'auteur. Ne cherchez pas le titre, c'est le nouveau Houellebecq. Le héros s'appelle Florent-Claude Labrouste, mais vous comprenez, il aurait pu s'appeler Michel. Et je vous passe les digressions biographiques sur l'Instagram de sa femme ou sur Valeurs Actuelles. Sur la couverture, pourtant, il est écrit roman, mais on en fait systématiquement des lectures morales, politiques, sociétales. Et c'est passionnant parce que ce roman, en fait, on lui refuse le statut de roman. Et moi, j'aurais été le premier à me réjouir du fait qu'un livre soit partout, qu'on ne parle que d'un livre en ce moment, sauf que là, vous avez remarqué, on ne parle pas d'un livre, mais d'un auteur. Un auteur blanc cassé et de ses remarques rouges sang à la hauteur de l'événement.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est aussi romancier, figurez-vous, membre de l'Académie Goncourt, dramaturge acclamé dans le monde entier. Autant dire qu'il fait aussi l'événement à sa façon. Son nouveau roman Félix et la source invisible vient de paraître. Une histoire dans laquelle il exprime, avec son optimisme et son empathie de toujours, sa profonde foi en les autres, en les pouvoirs de l'imagination et de l'esprit. C'est un autre délire quand même. Bonjour Émy, bonjour Éric Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Peut-être d'abord, et là c'est vraiment autant aux membres de l'Académie Goncourt, qu'à l'écrivain, au docteur en philosophie que je m'adresse ici. Qu'est-ce que cette bulle autour d'un roman, autour du nouveau roman de Michel Houellebecq, dit de notre époque, à votre avis?
C'est un phénomène de société, davantage qu'un phénomène littéraire, non pas que je sois en train de critiquer le livre, mais c'est incroyable comme notre époque aime à se retrouver dans une parole qui est parfois un peu sibylline, et c'est pour ça peut-être que tout le monde s'y retrouve.
Vous l'avez lu, vous?
Oui, je l'ai lu, bien sûr.
Et alors?
Écoutez, je crois que Je l'aimerais plus facilement si d'autres ne l'aimaient pas autant. c'est un peu terrible ce que je vais dire. Non, c'est-à-dire que moi je l'ai lu avec beaucoup d'agrément et avec beaucoup de surprises, surtout sur les deux dernières pages, qui semblent indiquer que finalement qu'un autre livre aurait pu écrire, comme une autre vie aurait pu se lire, aurait pu se vivre. Et c'est ça qui est intéressant chez Houellebecq, c'est-à-dire c'est un auteur crypté. C'est-à-dire, c'est un auteur qui fait un livre qu'on lit avec plaisir, mais qui indique un autre livre qui aurait pu s'écrire. Et c'est peut-être cette espèce de millefeuille, même dans 300 pages, qui fait son succès.
Qu'est-ce qui fascine autant dans la figure de Michel Houellebecq? Est-ce que c'est aussi peut-être son pessimisme, son cynisme à rien désabuser dont témoigne chacun de ses romans et qui pourrait dire quelque chose d'aujourd'hui?
C'est là, de temps en temps, je pense à la phrase de Debussy sur Wagner. Debussy disait sur Wagner, on le prend pour une belle aurore alors que c'est un beau crépuscule. J'ai l'impression que Houellebecq, c'est aussi un beau crépuscule. C'est-à-dire que c'est une époque, comme elle se pense elle-même, il en est un peu l'étendard, il en est un peu le drapeau, mais à mon avis, c'est une époque qui finit. C'est pas une époque qui commence. Parce que justement, c'est du pessimisme qui se nourrit de lui-même. De nos jours, on a l'air plus intelligent si on est pessimiste, parce que ça passe pour du réalisme. En fait, on a l'air plus intelligent si on baisse les bras.
À l'inverse, de quel œil est-ce qu'on regarde les optimistes?
Souvent, quand on est optimiste, et je sais de quoi je parle, on passe pour le ravi de la crèche. Vous savez, on est un peu caricaturé. C'est ce que racontait Tristan Bernard. Un optimiste, c'est celui qui va au restaurant sans avoir d'argent et qui commande des huîtres en pensant qu'il va trouver une perle. C'est souvent en caricature l'optimiste comme ça, alors que l'optimiste, c'est pas ça du tout. L'optimiste, il fait le même constat que le pessimiste sur le monde, ça ne va pas. Mais le pessimiste consent et baisse les bras et ajoute, ça ne va pas et demain ça sera pire. Tandis que l'optimiste retrousse ses manches en disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour ça, comme disait le philosophe Alain, l'optimiste, c'est la volonté alliée au courage. Et donc, pour moi, les aurores, elles sont du côté de l'optimisme et les crépuscules du côté du pessimisme.
Votre nouveau livre en témoigne, Éric Emmanuel Schmitt, de cette optimisme, Félix et la source invisible. Vous racontez l'histoire d'un enfant dont la mère sénégalaise souffre d'un mal étrange et qu'il s'efforcera de sauver. Ce mal, il se traduit par une envie compulsive de tout calculer et de tout nettoyer à la Javel. De quel mal ces symptômes sont-ils le nom pour vous? De quoi cette femme sénégalaise qui vit en France souffre-t-elle réellement?
Le monde a perdu son épaisseur pour elle. Elle vit à Paris. Paris, c'est une ville magnifique, mais elle ne le voit plus. Et où elle étouffe dans un univers finalement qui est totalement hominisé. Pas humanisé, hominisé. C'est-à-dire que le goudron a recouvert la terre, la pierre a étouffé la terre. Il n'y a plus de saison. Les arbres sont dans des cages. Ils sont taillés pour être au garde à vous dans les rues.
C'est l'histoire d'un déracinement.
Voilà. Elle a perdu le contact avec la nature. Et aussi, pour des raisons qu'on va apprendre durant le livre, elle a perdu le contact avec son passé, puisqu'il y a eu quelque chose de traumatisant dans son passé au Sénégal, et elle a voulu rompre avec tout ça. Et quand on se coupe de ses racines, on flotte. Et là, elle est dans ce moment où la flottaison est difficile, c'est-à-dire qu'elle fait véritablement une dépression. Mais c'est une dépression vue par le regard de son fils.
J'ai l'impression quand même que derrière l'aspect innocent de ce narrateur, du conte, surtout, vous nous dites quelque chose d'assez grave sur la France, sur la manière dont elle accueille tous ceux que l'on désigne, souvent abusivement d'ailleurs, comme étrangers.
Ah bah clairement, là je présente une petite société qui est à Belleville, donc puisque Fatou, qui est mon héroïne, tient un café à Belleville qui s'appelle Au Boulot, ce qui est assez pratique puisque quand les gens sont au bar et qu'on les appelle au téléphone, que leur patron ou leur femme leur demande « Où es-tu ?», ils répondent « Au boulot !» Donc ils ont la paix et ils peuvent reprendre un verre. Et donc, Fatou, elle est comme ça à la tête d'une petite société qui est une seconde famille pour Félix, son fils, une société finalement d'exclus et d'invisibles. Et elle-même fait partie un peu des exclus et des invisibles.
Qu'est-ce que c'est pour vous, Éric-Emmanuel Schmitt, l'identité? Vous qui n'avez jamais cessé d'écrire là-dessus, en somme.
Oui, pour moi, il n'y a rien de plus problématique que l'identité. Et en même temps, il faut accepter que l'identité soit problématique. On est fait de plusieurs couches d'identité. Dans notre identité, il y a une couche française, puis il peut y avoir une couche spirituelle, puis religieuse, et puis il peut y avoir une couche qui est liée à la région dans laquelle on est, qui n'est pas forcée, qui n'incarne pas tout. Toute la France, et puis il y a une couche familiale, historique, philosophique aussi selon le trajet qu'on a fait, et puis c'est modifié par les rencontres. C'est-à-dire en fait on est chacun fait de plusieurs couches identitaires. Et ce que je ne supporte pas, c'est la simplification de l'identité. C'est quand on réduit son identité à une seule de ses composantes.
Il faudrait que ce mot soit toujours au pluriel, somme toute.
Complètement. Je veux dire quand quelqu'un parle uniquement en tant que catho, ou quand quelqu'un parle uniquement en tant que gay, ou que quelqu'un parle uniquement en tant que je sais pas, libéral, j'ai l'impression d'être en face d'une fiction qui se prend les pieds dans le tapis.
À quel moment dans votre vie d'écrivain et d'homme d'ailleurs, cette question des identités est-elle devenue centrale pour que vous en fassiez le cœur de votre travail?
Je crois que ça vient du fait que quand j'étais petit, on me disait toujours « d'où viens-tu ?». Alors moi je répondais du troisième, mais en fait je savais très bien que la question c'était autrement parce que j'ai pour une raison que j'ignore absolument puisque on m'a jamais expliqué, j'ai visiblement du sang mêlé dans mes origines, et donc j'étais toujours un peu le métèque. J'étais toujours l'autre de l'autre, et loin d'en nourrir une inquiétude ou une haine des autres, ça nourrit mon humour. C'est-à-dire que on me disait oui, et d'où viens-tu? J'ai de Lyon, mais avant. Et alors, t'as pas des racines africaines, me demandait-on régulièrement. Et je disais, ah si, vous avez raison, j'avais un grand-oncle qui était archevêque en Afrique. Et donc les gens se disaient, ce garçon est stupide, et moi je riais sous cap. Et donc voilà, j'ai toujours eu l'impression que mon corps racontait peut-être une autre histoire que celle qu'on m'avait contée, et celle dont j'étais le dépositaire, et ça me plaisait. Ça me plaisait le fait que les choses soient un peu plus complexes et compliquées que les apparences.
Vos identités vous posent encore question, Éric-Emmanuel Schmitt?
Oui, je crois que j'ai qu'une seule identité, c'est la langue. Je veux dire, la langue dont je suis passionnément amoureux, qui est la langue française. Ça, c'est ma partenaire depuis 50 ans. Et c'est, pour l'instant, c'est toujours elle qui gagne. Mais moi, je continue à l'apprivoiser.
Vous savez qu'il y en a une qui se pose aucune question dans cette émission, qui est auto-centrée, plus égoïste que jamais. Peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité exubérante, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 9 janvier?
Le spectacle d'une fille qui pleure me désarme toujours tout à fait, surtout quand elle est jolie.
Le trouble qu'elle provoque en moi me donne comme un droit sur elle.
L'Odyssée Romer, la Cinémathèque française, inaugure aujourd'hui une grande rétrospective consacrée à l'icône de la Nouvelle Vague. Jusqu'au 11 février, l'institution propose de découvrir ou de redécouvrir plus d'une vingtaine de films, ces fameux contes, proverbes, comédies, grâce auxquels Romer s'est imposé comme le maître de la légèreté et le témoin délicat de l'intimité moderne. Trois rencontres sont aussi prévues avec les acteurs qu'il avait dirigés, Marie Rivière, Ariel Dombal et Fabrice Luchini. On dit oui.
This is the American dream, ladies and gentlemen. Come on! This is my American dream. I've been dreaming of this. Thank you so much.
Gad, so glad, il vient de recevoir un premier prix américain pour son spectacle American Dream, écrit en anglais, diffusé sur Netflix. Gad Elmaleh y décortique les TikTok et obsessions des Américains et se moque gentiment de ses propres difficultés à comprendre les codes du pays. Par ailleurs, chez nous, l'humoriste français va recevoir un prix d'honneur lors de la cérémonie des Globes de Cristal 2019 et il remontera sur scène pour une pièce de théâtre en avril. Bowie un jour, Bowie toujours, après être passé par New York, Londres et Paris, la grande expo David Bowie Is est désormais disponible en ligne via une application smartphone. Grâce à la réalité augmentée, l'appli donne accès à des centaines de costumes, vidéos, paroles, manuscrits et œuvres originales de l'expo en version 3D et à 360 degrés. Cerise sur le gâteau, c'est l'acteur Gary Oldman, grand ami de Bowie, qui sert de guide privilégié, qui prête sa voix à cette expérience unique en son genre, à la bonne heure. Et mercredi, deux promos, séance à gogo, car aujourd'hui dans les salles, on pointe son nez pour Edmond, premier long d'Alexis Michalik et récit romancé de la naissance de Cyrano. On ose l'heure de sortie, la nouvelle livraison implacablement flippante de Sébastien Marnier. Et sinon, on va voir Les Invisibles, la comédie sociale assez bouleversante de Louis-Julien Petit avec notre invité d'hier, la solaire Audrey Lamy. Et l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, invité de Boomerang ce matin pour le 8e volet, il faut le dire, de votre cycle de l'invisible, qui a vu des romans, on le rappelle, comme Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame Rose, ou alors Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu. Alors le petit dernier, Félix et la source invisible, c'est l'histoire, je le disais, d'un enfant qui va tenter de sauver sa mère malade, et notamment par le biais d'une rencontre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le cas dans tous ces romans, oui, du cycle de l'invisible. Pourquoi est-ce que chez vous, la rédemption est-elle toujours apportée par l'autre? Il y a forcément une raison.
Parce que moi, ma vie a été éclairée par les autres.
Quelles sont les rencontres qui vous ont sauvé?
Ma vie a été construite par des rencontres. La première rencontre, c'est l'être dont je suis issu, en l'occurrence ma mère, puisque ça a été une relation qui s'est arrêtée simplement il y a 2 ans, puisqu'elle est partie, mais c'est hallucinant d'être porté par autant d'amour dans l'existence. Je crois que c'est ce qui m'a donné aussi mon optimisme, ma confiance, mon audace et mon énergie. Et puis après, il y a eu des rencontres fabuleuses avec des profs qui vous éclairent sur un pan de culture et qui vous donnent envie d'y pénétrer comme si c'était encore plus intéressant qu'une fête foraine.
Il y a eu la rencontre avec Dieu aussi, dans le désert.
Ah ça, c'est la rencontre, je dirais, à la fois ultime et fondatrice. C'est-à-dire qu'effectivement, à 28 ans, je faisais un voyage et je suis rentré dans le Sahara athée, et j'en suis ressorti croyant.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Me suis perdu. Enfin, je me perds partout, hein, y compris à Radio France, d'ailleurs. Mais
tout le monde se perd à la maison de la radio.
Mais tout le monde ne trouve pas Dieu à Radio France, ça c'est clair. Non, et je me suis perdu dans le désert, et gravement, puisque pendant 32 heures, j'ai été sans rien à boire, sans rien à manger, absolument isolé au milieu du hogar, dans ce qui aurait dû être une détresse et un désarroi total. Et la nuit que j'ai passée sous les étoiles, je m'attendais à ce que ça soit la pire nuit de ma vie, et ça a été la plus belle nuit de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé une nuit de feu, une nuit mystique, une nuit d'extase qui a totalement changé ma vie. J'étais pas du tout à la recherche de ça. J'étais pas du tout le client de ça. Moi, j'étais athée, issu d'une famille athée, avec une instruction athée. Mon professeur à Normale Sup, c'était Jacques Derrida. J'avais fait ma thèse sur Diderot. Donc, autant vous dire que j'étais bien installé dans l'athéisme. Et c'est cet athée qui, tout d'un coup, reçoit la grâce de la présence, de la lumière et de la force.
Et de quoi vous a-t-il sauvé, ce Dieu, Éric-Emmanuel Schmitt? De quelle vie de débauche?
Non! Je suis en train de dire, il m'a pas sauvé de la débauche. Non, non.
Ah ben, on connaît l'histoire de Saint-Augustin. Enfin, moi, je la connais.
Non, c'est que, tout change. C'est-à-dire qu'avant, j'habitais le mystère de la condition humaine. Je l'habitais avec angoisse. Aujourd'hui, ce même mystère, parce que je n'en sais pas plus, croire, ce n'est pas savoir. Ce même mystère de la condition humaine, je l'habite avec confiance. Oui. Tout a changé. Aujourd'hui, quand je ne comprends pas, je fais crédit. Je me dis quelque chose m'échappe. Au lieu d'accuser le monde de ses limites, j'accuse mon esprit de ses limites. Et je continue à faire confiance.
Mais la recherche spirituelle, en tout cas, c'est un autre de vos thèmes de prédilection. Oui. Cela, c'est intéressant. Dans une société matérialiste, consumériste, dominée par l'économie de marché, où tout se compte, tout s'accélère, quelle place est-ce qu'on accorde à la spiritualité ?
Mais totalement insuffisante, et c'est pour ça qu'on n'a jamais vendu autant de d'antidépresseurs que beaucoup de gens, alors qu'ils ont des conditions de vie matérielles qui sont plus heureuses que dans les temps passés globalement, les gens ne se sentent pas heureux. Mais c'est parce que l'invisible a disparu, parce que le spirituel a disparu, parce que le monde visible n'est plus couvert par un autre monde qui est le monde invisible, c'est-à-dire par le sens.
Ça voudrait dire ça, croire en fait, pour vous accéder au monde invisible ?
Mais c'est faire en sorte que son esprit soit pas seulement une rationalité pragmatique, mais soit aussi le cœur et l'imagination. On ne peut pas vivre sans ces dimensions du cœur et de l'imagination. C'est ce que je raconte dans le livre Félix et la source invisible. C'est-à-dire que Fatou s'est tellement coupé de sa spiritualité originelle, qui est en l'occurrence l'animisme africain, que le monde est devenu plat, il est devenu en deux dimensions. Or, notre expérience du monde, elle n'est pas seulement une expérience des objets et des êtres, elle est aussi une expérience du sens. Quand une naissance, c'est un fait, mais c'est aussi un événement, c'est-à-dire ça a un sens. Une mort aussi, un amour, un désamour, une maladie, une guérison. On est toujours en train de doubler notre expérience matérielle du monde d'une expérience immatérielle, qui est la donation du sens. C'est pour ça que je m'intéresse autant aux spiritualités, parce que ce sont les grandes fournisseuses de sens. Et le cycle de l'invisible, c'est un voyage à travers des récits qui sont tous différents les uns des autres, dans ces grandes spiritualités.
J'aimerais qu'on entende la voix et les paroles d'un homme en qui j'ai l'impression que vous avez foi. Cet homme, c'est Jacques Brel,
oh oui.
En 1971, et c'est lui que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin.
Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique, je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas, une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas, mais ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure, il le sait. Il ne le sait pas bien, mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe au chou. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais en tout cas que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit.
Compenser son enfance, dit Jacques Brel, Eric Emmanuel Schmitt. Ça voudrait dire quoi ?
Ben, c'est-à-dire qu'il dit une chose tellement juste et qu'on ne dit jamais. On est fait d'étonnements. Notre vie est structurée par les étonnements. Les grands étonnements devant un paysage, devant la beauté d'une musique, devant la beauté d'un visage. C'est ces étonnements qui nous constituent et qui sont notre lien vivant.
Là, il parle des étonnements premiers.
Oui. Et il dit... Alors, je suis pas d'accord avec lui, mais j'aime ce qu'il dit. c'est-à-dire, il dit, voilà, ces grands étonnements nous constituent, et c'est vrai. Je pense qu'une vie d'adulte réussie, c'est une vie auquel l'adulte donne ses moyens et sa force à l'enfant qui s'est étonné, pour continuer à s'étonner et aller plus loin.
Vous l'avez compensé, votre enfance, vous ?
Moi, je l'ai pas. Alors, c'est là que je suis pas d'accord. Moi, je l'ai pas compensé. Je l'ai poursuivi. C'est-à-dire que je vis absolument sans aucune nostalgie de l'enfance, sans aucune volonté de régression dans l'enfance. Mais j'ai essayé vers 40 ans, c'est exactement l'âge que désigne Jacques Brel, vers 40 ans, de pratiquer l'esprit d'enfance. C'est pas du tout une régression, l'esprit d'enfance. C'est de se dire, il faut que je retrouve des qualités que j'ai eues spontanément et que j'ai perdues parce que la vie m'a blessé, m'a giflé.
C'est-à-dire, il ressemblait à quoi, le petit Eric Emmanuel Schmitt?
Eh ben, justement, il pratiquait l'étonnement. Et j'essaye toujours maintenant de pratiquer l'étonnement.
Il s'émerveillait,
c'est-à-dire c'est l'étonnement plus l'admiration. C'est tellement bon d'admirer. Moi, je fais des exercices d'admiration. Je suis content d'admirer. Franchement, ça me remplit le cœur. Et puis c'est la meilleure lutte contre d'ailleurs la dépression, parce que la dépression c'est la mort du désir.
Et l'adolescent que vous étiez, puisqu'il paraît, si on écoute Jacques Brel, que tout se joue à 17 ans.
Oui, bah tout d'un coup, il y a, en étant c'est l'adolescence une fois mais pas deux, hein, merci. C'est-à-dire tout d'un coup, on est envahi par des poussées d'hormones, par des désirs qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est-à-dire c'est la plus grande des métamorphoses, quoi. C'est-à-dire c'est pas seulement une métamorphose physique, mais c'est une métamorphose psychique. Tout d'un coup, alors qu'on n'avait jamais désiré, on se met à désirer et c'est-à-dire à manquer. Et donc tout d'un coup, voilà, la vie d'un homme ou d'une femme, elle va se mettre aussi sous la forme du manque. Et ça, alors moi, le manque, j'aime pas tellement. C'est un bouleversement total. Moi, l'adolescence, c'est un âge dont je me sens toujours très très proche. Je m'entends d'ailleurs très très bien avec les adolescents, alors que souvent les adultes s'entendent très mal avec eux. C'est un âge fondateur parce que c'est l'âge du manque. Et je comme l'enfant, je n'oublierai jamais. Moi, j'ajoute des âges aux âges. Et j'essaye aussi de garder toujours la vivacité première des pans de vie que j'ai découverts selon les âges.
17 ans, vous savez ce que ça m'évoque, moi ?
Oui.
Ça m'évoque cette si belle chanson de 1976 qui s'appelle « At 17 ». C'est une chanson de Janis Ian. Vous êtes sur France Inter avec Eric Emmanuel Schmitt. Vous écoutez Boomerang et on est mercredi.
I learned the truth at 17. Their love was meant for beauty queens in high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs whose name I never could pronounce said, pity please the ones who serve. They only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember those who win the game, lose the love they sought to gain in Devonshires of quality and dubious integrity. Small town eyes will gape at you in dull surprise when payment due exceeds accounts received at 17. To those of us who knew the pain of Valentine's that never came, names were never called when choosing sites for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We are
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il a cet air de sage, vous savez, on l'imagine aisément vêtu en spartiate ou d'une simple toge blanche, déambulant dans les rues qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Pour nous éclairer de ses lumières, il a le teint frais, l'œil pétillant, le crâne un peu nu et le cheveu blanc, quelque part entre une version bouddhiste de Gargantua et l'homme qui murmurait à l'oreille des chats avec sa veste bleu roi et sa chemise à col retourné. Ce matin, l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, invité de Boomerang, je le disais au début de cette émission, vous êtes aussi docteur en philosophie. Pourquoi est-ce que vous êtes initialement tourné vers la philo ?
Parce que j'en avais besoin pour me construire comme une colonne vertébrale, autrement j'allais tomber, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement émotif. Et donc je subis souvent les émotions. Je suis en plus quelqu'un d'extrêmement empathique. Je me mets très souvent à la place de l'autre.
C'était une façon de reprendre, une forme de contrôle.
Oui. Je me suis dit, je vais mourir de ma sensibilité, de mes émotions. Et mes parents et mes proches craignaient cette hypersensibilité. Et j'ai eu ce réflexe de me dire peut-être que, avec la philosophie, je vais arriver à me construire, à parfois prendre un peu de distance, parce que ça permet ça, la philosophie, et relativiser les choses. Et c'est vrai que ça m'a apporté ça.
Mais enfin, le problème, Éric Emmanuel oui. Schmitt, c'est que vous l'avez un peu abandonner la philosophie. Vous auriez pu vous contenter de continuer à enseigner. Vous avez décidé d'écrire des romans, d'écrire de la fiction.
Ah ben c'est pas un abandon.
C'est une mise en danger, non ?
Ah non, c'est pas un abandon parce que je crois que toutes mes pièces, mes contes, comme celui qu'on évoque aujourd'hui ou mes romans, ont leur racine dans l'humus philosophique. C'est-à-dire que toujours j'essaye d'articuler des récits qui ont un sens et qui sont toujours un chemin vers le sens.
Que vous a apporté l'écriture ?
Je crois que... D'abord, moi je suis écrivain comme un pommier fait des pommes, hein, c'est-à-dire que c'est une nécessité de nature, quoi. J'ai plein d'histoires dans la tête.
C'est-à-dire que vous écrivez depuis toujours ?
Oui. J'ai découvert très tard que tout petit garçon de 10-11 ans ne rentrait pas chez lui pour écrire des histoires.
Oh.
Moi c'est ce que je faisais, je rentrais à la maison, j'écrivais des histoires.
Vous les avez encore ?
Oui, je les ai encore. Oui,
mais ces textes d'enfant, ils parlaient de quoi, Éric Emmanuel Schmitt ?
Oh bah, le premier, c'était un roman, et ça s'appelait Une nouvelle aventure d'Arsène Lupin, parce que j'adorais Arsène Lupin, et j'étais trop triste que dans la bibliothèque de mon père, il n'y ait plus d'Arsène Lupin.
Vous avez quel âge ?
J'avais 11 ans, et je commençais, c'est-à-dire que j'écrivais les livres qui me manquent, et je continue à écrire les livres qui me manquent. Ce n'est plus Arsène Lupin.
C'est intéressant parce que j'ai l'impression que de vous, finalement, on ne sait pas grand-chose. Il y a toujours une forme de pudeur ou de timidité. L'envie oui. peut-être de se réfugier derrière la pensée, derrière les mots.
Non, je pense que... Oui, d'abord, la pudeur, elle est extrême. Mais c'est aussi le fait que je crois que vous êtes allé à un bal masqué. Eh ben, quand vous êtes déguisé, quand vous êtes masqué, vous osez tout.
Alors, il y a bal masqué et bal masqué en plus, donc effectivement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un masque, on peut tout dire. Alors que quand on a juste son masque à soi, et peut-être qu'on est beaucoup plus sous contrôle. Et donc, moi, à travers la fiction, à travers mes romans, mes pièces, je dis tout de ce que je pense du monde. Et de comment je sens, comment je vibre, comment je désire, etc. Mais comment je m'étonne, comment je m'émerveille. Et alors, tandis que si je disais « je sens que je limiterais mon propos.
Vous écrivez beaucoup de théâtre, Éric oui. Emmanuel Schmitt. Vos pièces se jouent tous les jours dans le monde entier. Vous avez même racheté un théâtre, le Théâtre Rive Gauche à Paris. Qu'est-ce qui se joue pour vous sur une scène de théâtre ? Qu'est-ce que la scène de théâtre permet de rendre visible ?
D'abord, la scène de théâtre, elle offre un miroir où l'homme se réfléchit. Voilà. La première fois que j'ai vu une pièce de théâtre, c'était Cyrano de Bergerac, et tout d'un coup, moi qui avais 11 ans, et qui étais un enfant très aimé, donc je ne doutais pas d'être aimable, puisque j'étais aimé, j'étais en face d'un Cyrano de Bergerac qui pense qu'il n'est ni aimé, ni aimable, parce que il a un appendice nasal monstrueux. Et c'est mes premières larmes altruistes, mes premières larmes philanthropiques. J'ai pleuré sur quelqu'un d'autre que moi.
L'humain.
Ouais, l'humain. Ma première expérience humaniste, ça a été au théâtre, dans une salle de théâtre. Et ça reste toujours ça pour moi, le théâtre. Ça représente les hommes, la condition humaine. Ça permet une empathie avec l'autre que soi. Ça permet la compassion, le chagrin et la pitié, comme disait Aristote en parlant du théâtre. Ça sera toujours ça. Et puis c'est le lieu de tous les possibles.
C'est un texte qui quelque part évoque et repose sur des concepts de théâtre que vous nous avez écrits ce matin. Rien que pour nous. Et j'aimerais que vous nous le lisiez. Si vous le voulez.
C'est un texte sur les marchands de drames et les pointeurs de tragédie. Trop souvent devant l'horreur, nous fermons les yeux et nous crions assez en exigeant des mesures pour résoudre le mal. Or, certains problèmes demeurent sans solution. En tout cas, sans solution unique. Voilà ce qu'on appelle le tragique. L'opposition de deux forces qui ne sont pas d'accord et qui pourtant ont raison toutes les deux. Ainsi, au XXIe siècle, on peut trouver légitime de fuir la misère et la violence. mais aussi légitime l'inquiétude du pays accueillant qui se fragilise. Choix tragique entre se montrer humain et se montrer prudent. On comprend la nécessité d'enrayer le réchauffement, mais on ne veut pas stopper la croissance. Choix tragique entre ne plus vivre demain ou mal vivre aujourd'hui. On compatit avec ceux qui ont peu, mais on craint de vider les poches de ceux qui ont plus. Choix tragique entre enrichir les pauvres et conserver des faiseurs de richesses. Or, à la tragédie, nous préférons tous le drame, avec son schéma élémentaire, le bon et le méchant. Les marchands de drames prolifèrent en politique, des présidents qui désirent construire des murs pour en finir avec les migrants, des climato-sceptiques, des ultralibéraux, des anti-entreprises, des ultranationaux. Et c'est ça, le démagogue, celui qui refuse la tragédie et aime le drame. Niant la complexité, il brandit une solution unique. Même s'il nous déplaît, nous devons apprivoiser le tragique, le reconnaître, le mesurer, puis repousser le menteur qui l'oublie. Notre horreur des tragédies ensanglante le monde. C'est inconfortable d'être un homme lucide. Mais le confort, c'est la mort de l'autre.
Apprivoiser le tragique, Éric-Emmanuel Schmitt, c'est tout un programme de vie,
oui,
ça.
Mais ce n'est pas un programme tragique. C'est peut-être le sens du bonheur, c'est le sens de la complexité. Il faut accepter la complexité du monde. Il faut pas limiter le monde à sa voix ou à la voix de X ou à la voix de Y. Il faut accepter la multiplicité des voix, la discordance des voix, puis après essayer d'en faire un concert des voix, d'en faire une harmonie.
Ce qu'on entend dans ce texte, c'est aussi quand même le point de vue d'un homme inquiet.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui le plus ?
La non-écoute. La non-écoute des élites qui méprisent une partie de la population, et puis la non-écoute aussi peut-être de cette partie de la population qui crie et qui n'articule pas. Alors je trouve qu'aujourd'hui, on peut être inquiet entre le mépris des élites pour une certaine partie de la population et la haine des élites par une autre partie de la population. Et j'aimerais que chacun retrouve l'écoute, c'est-à-dire l'écoute de l'autre, qu'on sorte de la logique du mépris, parce que, comme disait Proust, l'indifférence est la pire violence qu'on peut faire à l'autre.
C'est sur cette écoute qu'on va se quitter. Alors merci infiniment, Éric-Emmanuel Schmitt, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Félix est la source invisible. Votre nouveau roman du cycle de l'invisible vient de paraître aux éditions Albin Michel. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Cousin de coudon qui peut faire l'effet. Cousin de maman qui m'en